Merci Antoine de Necher et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Lyon, dans les bureaux de Radio France, près de la place Bellecour. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Yvon, t'as pas 10 balles ? C'est pour la vieille dame qui m'en dit rue de la République. Oui, oui, celle qui a une très belle robe et qui se tient un peu raide. Tu sais que l'habit ne fait pas le moine. Allez, fais pas ton vieux radin. Toi, t'es en CDI à Radio France. Tu sais que 100% de ton salaire provient de la redevance. 136 euros par contribuable et par an. Mais tu sais combien chaque foyer paye chaque année pour le fonctionnement de la justice ? 61 euros. 61 euros. Bon bah, 10 balles, c'est bien le moins qu'on puisse faire pour cette très vieille dame. Oui, je sais, jusqu'à maintenant tu passes plus de temps devant la télé qu'au tribunal. Mais c'est tout de même grâce à la justice que tu peux regarder la télévision tranquille. Allez, mets la main à la poche, elle est dans le besoin. L'institution judiciaire est en voie de clochardisation, disait la semaine dernière Jean-Jacques Urvoas lors d'un déplacement à Lille. À bout de souffle, sinistré, en état d'urgence absolue, tels sont les mots d'un ministre qui ne fait pas encore l'aumône auprès du gouvernement, mais ne fait pas non plus l'économie des mots. Il y a tous les jours des reportages qui montrent qu'ici l'électricité n'est pas payée, que là un plafond s'est effondré, que le premier geste que fait un magistrat avant d'entrer dans un bureau est d'acheter une serpillière, a dit encore Jean-Jacques Urvoas avant d'annoncer la construction prochaine à Lille donc d'un nouveau palais de justice. Les bâtiments, partie visible de l'institution, seraient donc la priorité, mais les moyens humains, les effectifs de magistrats et de fonctionnaires permettent-ils encore de rendre la justice du quotidien ? Bonsoir Thomas Fouret. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes avocat au barreau de Lyon. Vous pratiquez le droit pénal, droit des étrangers et droit des médias. Vous êtes président de la section lyonnaise du SAF, le syndicat des avocats de France. Et vous êtes en contact permanent, alors non seulement avec les magistrats, qui sont ceux qui semblent souffrir le plus du manque de moyens, mais aussi des justiciables, qui sont leur raison d'être. Avec vous dans les studios de Radio France à Lyon, un ancien confrère. Bonsoir Étienne Blanc.
Bonsoir.
Vous avez été avocat. Vous êtes aujourd'hui vice-président du conseil régional Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez, quand vous étiez encore député de l'Ain, donc c'était encore il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'au 9 mars dernier, vous avez donc été à l'Assemblée le rapporteur spécial du budget de la justice pour 2016. Alors c'est justement ce soir dans une juridiction de l'Ain que nous allons nous rendre, dans le tout nouveau palais de justice qui a ouvert ses portes en début de semaine, à Bourg-en-Bresse, Étienne Blanc. Alors, c'était pas dans votre circonscription, vous êtes plutôt du côté de Divonne-les-Bains, dont vous êtes maire. Mais peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur le contexte social de Bourg-en-Bresse et de sa région.
C'est important pour le département de l'Ain, cette fonction judiciaire, parce que Bourg est la capitale administrative de l'Ain, c'est la préfecture. Et ce département de l'Ain, c'est un département qui est très divers. Vous avez un droit international sur la frontière franco-suisse, avec des affaires pénales, commerciales, très particulières. À Divonne-les-Bains, par exemple, nous avons plus de 100 nationalités différentes. Donc, les divorces, c'est du droit international privé. Et il y a un droit pénal qui est très particulier, cette frontière. Et puis, le département de l'Ain, les gens ne le savent pas, c'est le premier département industriel de France. Beaucoup de PME, beaucoup d'activités dans des domaines divers. La mécanique, la plasturgie, les transports. Et puis, Bourg est une ville administrative, une ville puissante, qui est connectée par des autoroutes, par le TGV, l'ensemble du territoire national. Donc, il y a des activités ici qui sont des activités très, très particulières.
Le département de l'Ain qui a gagné 50 000 habitants en une petite dizaine d'années. À Bourg-en-Bresse, on s'est longtemps battu pour obtenir des moyens supplémentaires dans les différentes juridictions. Et à force de persévérance, eh bien, on en a obtenu certains.
Thank you.
on s'est installé à Manoa dans un petit coin de la salle des pas perdus qui ouvre ce grand palais de justice ici en plein centre-ville de Bourg-en-Bresse, en plein cœur de ville, en plein cœur administratif aussi. On est tout près de la préfecture, on est tout près du conseil départemental de l'Ain. Et dans cette salle des pas perdus, eh bien ça sent vraiment encore le neuf.
Effectivement, nous avons ouvert au public ce nouveau bâtiment le 25 avril, donc extrêmement récemment. Ce bâtiment est une véritable œuvre architecturale, il est monumental. Les architectes ont utilisé des matériaux modernes. Il est traversé de part en part par des espaces entièrement vitrés qui recueillent le soleil et par lesquels on peut voir la vie de la ville de Bourg-en-Bresse. Il marque la place de la justice dans notre société et notamment dans ce département de l'Ain.
À travers une dizaine de colonnes symbolisant la force et la présence de la justice.
C'est effectivement un symbole fort qui a peu à peu été abandonné dans la plupart des palais de justice modernes et que les architectes ont voulu reprendre ici. Elles sont blanches et lorsqu'on arrive depuis la gare jusqu'au palais de justice, petit à petit, elles s'ouvrent pour laisser apparaître le bâtiment.
Vous-même, vous aviez vraiment un besoin avant de vous installer ici, avenue Alsace-Lorraine ?
Alors, nous étions répartis sur plusieurs sites. Nous avons réuni toutes les juridictions dans ce seul bâtiment. Les locaux qui étaient utilisés auparavant étaient des locaux assez divers, mais pour la plupart vétustes, mal organisés, dans lesquels les fonctionnaires et les magistrats travaillaient dans des conditions que moi j'estimais indignes de ces personnels et indignes de l'image de la justice. Par exemple, des bureaux communs qui étaient traversés par des couloirs. On avait construit des bâtiments, rajouté des bâtiments de briques et de brocs qui ne communiquaient pas entre eux. Nous n'avions pas assez de place pour classer nos dossiers, nos archives, etc. L'ensemble de ces éléments qui faisaient que le travail était extrêmement difficile. Et en quelques jours, depuis que nous avons déménagé, j'ai réellement et concrètement retrouvé le sourire sur le visage de la plupart des personnels qui enfin travaillent dans des conditions de confort, de sécurité et de convivialité qu'ils n'avaient jamais connues. Le projet de ce bâtiment remonte à 2009. Actuellement, vous savez que les finances de l'État sont limitées. Ce palais a coûté 18,8 millions d'euros. Donc effectivement, c'est une dépense importante, mais je suis convaincue que le bénéfice que nous en tirons n'est pas mesurable en euros sonnants et trébuchants, mais se mesurera en qualité de la justice rendue.
On est dans votre tout nouveau bureau, Thibaut Boutier, moquette et mur blanc.
C'est vrai que c'est une chance que d'avoir un nouveau palais de justice. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu récemment Caen, Foix qui ont été inaugurés. Là, nous arrivons dans des locaux qui sont des locaux, je dirais pas spacieux, parce que, notamment pour moi, j'y ai perdu par rapport à l'ancien palais de justice, mais en tout cas, ce sont des locaux qui sont beaucoup plus fonctionnels, qui sont beaucoup plus accessibles, notamment pour les justiciables, et dans lesquels la question de la sécurité est beaucoup plus prise en compte. J'entends par là que sur ce nouveau palais de justice, nous avons un accès qui est un accès sécurisé pour les personnes détenues, qui ne seront pas amenées à croiser du public. Alors même si tout n'est pas parfait aujourd'hui, nous apprécions la chance d'avoir ce nouveau palais.
Mon Thibaut Boutier, vous avez une belle coquille, en tout cas un beau lieu de travail. Est-ce que les moyens humains ont suivi? Combien de juges êtes-vous ici au palais de justice de Bourg-en-Bresse? Et surtout, est-ce que vous considérez être en nombre suffisant?
Alors, écoutez, on a beaucoup parlé de Bobigny et des moyens de la justice de manière générale. Ici, malheureusement, nous ne sommes pas épargnés. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des juridictions de France. Et c'est vrai que ce que l'on constate, c'est que nous connaissons 4 vacances de poste à l'heure actuelle sur un effectif total de 28 au siège, ce qui implique pour nous un surcroît d'activité, quelles que soient nos fonctions. Ça signifie un rallongement des procédures pour des personnes qui veulent divorcer, mais elles devront attendre un peu plus longtemps pour être convoquées pour la première audience. Pour une victime, il faudra qu'elle attende un peu plus longtemps avant que son affaire ne soit évoquée par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Pour vous prendre un exemple, à Bourg-en-Bresse, les juges d'affaires familiales, les collègues qui ont en charge ce contentieux, lorsque l'on voit le nombre de dossiers qui est appelé à l'audience et le temps d'audience qui est dédié, si on fait ce rapport-là, eh bien c'est 10 minutes qu'elles ont à consacrer par dossier pour entendre et les parties et leurs avocats.
Vous, Thibaut Boutier, dans l'exercice quotidien de votre fonction de juge, comment est-ce que vous ressentez cette surcharge de travail ou ce sous-effectif ? Est-ce que vous êtes obligé de revenir le week-end ? Est-ce que vous êtes en permanence dans votre bureau du palais de justice de Bourg-en-Bresse ?
Alors, il faut reconnaître une chose, c'est qu'au siège civil, nous avons moins de contraintes horaires que des fonctions telles que le parquet, par exemple, et une plus grande liberté dans l'organisation du travail. Pour autant, nous avons aussi une difficulté, c'est celle de valoriser un travail qui est un travail invisible, qui est celui de la réflexion, des recherches pour élaborer la décision, puis sa rédaction. Et ce travail-là, bien souvent, il est fait par de nombreux collègues le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires. L'autre conséquence pour les activités comme le civil, c'est que théoriquement, il existe deux formations du tribunal pour juger les affaires civiles. Une formation collégiale, 3 juges, qui en principe est la norme, et une formation qui est une formation à juge unique. Ce que l'on constate, c'est que de plus en plus de dossiers sont jugés à juge unique. Le but, et il est clair, c'est celui de libérer du personnel. L'autre conséquence est aussi qu'il faut désormais rendre des décisions dans un délai qui est assez contraint, ce qui fait que la motivation, qui est l'explication de la solution retenue, tend à être de moins en moins importante dans la décision de justice.
Thibaut Boutier, on n'a pas précisé que vous parliez au nom de l'Union syndicale des magistrats dont vous êtes membre, dans ce bureau tout neuf du palais de justice de Bourg-en-Bresse, avec ce grand placard duquel dépasse simplement un code civil. Je ne sais pas si plus les placards sont grands et moins les dossiers s'entassent.
Plus ils sont petits, moins ils s'entasseront. Je pense que c'est plutôt ce qui a dû guider pour le choix du mobilier.
Plus les placards sont petits et moins les dossiers s'entasseront. C'est vrai que les armoires sont vraiment étroites. On est dans l'optimisation de l'espace au centimètre près dans ce nouveau palais de justice de Bourg-en-Bresse. Bon, ceci dit, ces résidents ne se plaignent pas. Ils savent qu'ils sont loin d'être les plus mal lotis. Thomas Fouret, vous y étiez ce matin encore, je crois. Vous l'avez vu, ce palais de justice ?
Oui, j'envisage de déménager à Bourg. Mais j'ai pu y aller. Et c'est vrai que je me suis même amusé à faire quelques photos parce que je trouvais l'endroit assez agréable. J'ai pu discuter avec des confrères du barreau de Bourg que je connais, et en effet, eux aussi sont plutôt satisfaits de ce changement. J'ai connu l'ancien palais, et c'est vrai, c'est dans la petite ville, petite peut-être pas pour certains, mais en tout cas pour moi, lyonnais, oui, la petite ville de Bourg.
Une petite préfecture
avec un ancien palais de justice vraiment à l'ancienne, au milieu de la ville. En effet, les détenus rentraient en même temps que les justiciables non détenus. Les conditions de sécurité étaient pas du tout respecté, et voilà, ça avait un côté chaleureux, c'est sûr, mais j'imagine, j'ai vu des magistrats travailler dans des conditions absolument catastrophiques dans ce palais, dans cet ancien palais. Là, oui, c'est une très bonne nouvelle pour eux.
On est passé du 19e au 21e siècle, nous a dit la présidente de ce tribunal. Étienne Blanc, sur la question de l'immobilier et des moyens matériels, comment le ministère de la Justice répartit les budgets ? Comment se fait-il qu'à Mont-de-Marsan, par exemple, il faille attendre un an pour changer le verrou du seul cabinet de toilette disponible? À Brest, les magistrats se prêtent leurs cartouches d'encre pour les imprimantes. Dans tel autre tribunal, il faut faire une demande écrite pour avoir un stylo bille. Bon, bref, à Bourg-en-Bresse, à Caen, à Foix, en Ariège, on emménage dans des palais de justice flambant neufs. Comment le ministère prend ses décisions ?
Chaque année, le ministère inscrit dans des autorisations de programme des constructions en direction de la justice judiciaire. C'est le budget de la justice, un budget qui est de l'ordre de 8 milliards d'euros. Et il se répartit essentiellement entre un budget affecté à la pénitentiaire et un budget affecté à ce qu'on appelle la justice judiciaire, les tribunaux. Donc chaque année, le ministère inscrit le lancement d'opérations. Alors, quels sont les critères ? Bien, les critères, c'est évidemment le critère de l'urgence. Vous avez en France des tribunaux qui sont complètement dégradés. L'ancien tribunal de Bourg en était un exemple extraordinaire. Il fallait regarder les volets quand on passait dans la rue du palais à proximité. On a vraiment le sentiment physique d'un bâtiment en décrépitude. Très longtemps, nous ont demandé que soit lancé ce programme de construction. Qui plus est, à Bourg, tous les tribunaux n'étaient pas au même endroit en centre-ville. Tout ça a été compliqué pour les magistrats comme pour les avocats. Voilà, donc on a dû commencer dans les années 2005 à insister auprès du ministère pour que cette inscription soit réalisée. Et puis, je me souviens l'avoir discuté à l'époque avec le garde des Sceaux, Pascal Clément. Et Bourg a été déclaré prioritaire, compte tenu d'un état parfaitement dégradé. Ce qui est dommage, c'est que c'est la dégradation qui fait l'ordre, quoi. Ça ne devrait pas être comme ça.
Il y a d'autres tribunaux qui attendent désespérément. Je pense à Chartres et Perpignan qui attendent un nouveau lieu depuis 50 ans. Thomas Fouret, vous avez dû en voir d'autres des palais de justice qui aimeraient, si ce n'est un coup de pinceau ou peut-être un déménagement.
Oui, après, le TGI de Bourg est né aussi de la disparition d'un autre TGI, hein, puisque le TGI de Belley a disparu et ça a été quelque part une contrepartie qui a été accordée. La construction de ce nouveau palais de justice à Bourg permettait aussi de mieux faire passer la pilule, y compris au barreau de Belley qui a disparu par la même occasion. Après, s'agissant des palais de justice, je rejoins évidemment ce que dit Monsieur Blanc, hein, il y a des urgences, il y a des palais qui sont en mauvais état. Après, il y a des promesses aussi qui sont faites. On vous avait parlé tout à l'heure du nouveau garde des Sceaux qui promet la construction d'un nouveau palais de justice à Lille. Ça a déjà été promis en 2011 par Monsieur Clément. Ça avait été chiffré, repris par Madame Taubira 4 ans plus tard. Et on est en 2016, on l'a toujours pas vu. Il en est de même à Mont-de-Marsan, Angers, qui ont été aussi promis en 2011. Et on n'a rien vu venir. Donc ces annonces aussi... On les entend, nous qui travaillons au quotidien dans les palais de justice, et ça a été dit dans le reportage, le sourire retrouvé des fonctionnaires qui travaillent, le sourire retrouvé des avocats qui se rendent aussi sur leur lieu de travail qui sont agréables, c'est important. Et travailler dans un lieu délabré, au-delà même de la question de l'absence de moyens que vous avez rappelé, inévitablement la justice se rend mal et on travaille dans les mauvaises conditions et les justiciables n'ont pas l'impression d'être... respecter.
Alors les juges ne se plaignent pas, mais j'ai fait un constat avec Yvon, on a fait un constat et je voulais vous le soumettre, Étienne Blanc, c'est que les bureaux des juges sont très petits. Et c'est vrai qu'on se dit, des juges, qu'ils soient d'instruction ou autres, sont amenés à recevoir des personnes importantes, des colonels de gendarmerie, que sais-je, et on se dit, ils sont un peu à l'étroit dans leurs bureaux et ils auraient peut-être à juste titre l'impression d'être déconsidérés, d'être amoindris, la justice, un service public comme un autre quand on regarde les nouveaux projets immobiliers.
Je ne suis pas persuadé que la surface du bureau traduise la considération de l'État pour les magistrats. C'est peut-être un élément. Je voudrais dire aussi que depuis une quinzaine d'années, des efforts très importants ont été faits sur la dématérialisation. Il fut un temps où tout le procès... était répertorié dans des papiers, il y avait une lourdeur. Et c'est un peu la justice de Balzac. On a connu ça. Quand vous rentriez dans les services de l'audiencement ou dans les services du parquet, vous aviez toutes ces affaires criminelles, toutes ces affaires correctionnelles, parfois des dossiers énormes. Aujourd'hui, la dématérialisation a permis d'enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers. Dans la construction des palais, on en tient évidemment compte.
Sauf quand les logiciels de procédure pénale plantent, et je crois que ça arrive assez souvent, Thomas Fouret, je crois que c'est pour cette raison aussi, pour des raisons de moyens informatiques pour le moins défaillants, que les procureurs ont décidé récemment de ne plus faire remonter à la chancellerie leur traditionnel rapport annuel du ministère public, et notamment le procureur de Lyon, ici, Marc Simamonti, s'est fait entendre sur le sujet.
Le mot statistique, oui, quand vous discutez avec les personnels de justice, et on le fait, on a beau s'opposer des fois à l'audience avec des parquetiers, avec des juges. Après, on sort tous des mêmes bancs et on peut discuter. En plus, je me retrouve moi maintenant avec une génération de magistrats qui est de mon âge, quoi. Donc on peut discuter plus facilement. Et c'est vrai que leur fonction maintenant consiste à recenser les statistiques. Et c'est vrai que le ministère de la Justice sort un très beau rapport que j'ai pu consulter pour préparer cette émission, avec des statistiques parfaites sur comment fonctionne la justice, le nombre de dossiers rentrés, sortants, etc. Et c'est vrai qu'ils ont un peu le sentiment des fois d'être devenir des techniciens, des rapporteurs. Ils doivent rendre des comptes, mais plus vraiment des juristes.
Vous les trouvez comment, ces magistrats? Vous les trouvez, vous qui les fréquentez tous les jours, est-ce que vous êtes souvent face à des magistrats enthousiastes?
Alors, c'est vrai que j'ai la chance de les côtoyer de par ma fonction, et en plus en tant qu'avocat qui pratique le pénal, je suis au contact direct des magistrats, c'est-à-dire que je peux les rencontrer, plus particulièrement les juges d'instruction. Je vais dans leur cabinet, on discute, et inévitablement avec le temps, ça fait maintenant 8 ans que j'exerce, et on échange. Ils me posent des questions sur mon métier, je leur pose des questions sur le leur. Et c'est vrai que j'ai eu récemment 2 magistrats dans 2 TGI différents, j'avais l'impression que j'étais l'épaule sur laquelle ils venaient s'appuyer et se plaindre de leurs conditions, du fait qu'ils n'y arrivaient plus. Et comme ça a été dit dans le reportage, j'ai une magistrate d'une 40aine d'années qui m'a expliqué être en sous-effectif depuis 6 mois, travailler tous les week-ends, et qu'elle ne s'en sortait plus, qu'elle n'arrivait plus à sortir les dossiers, qu'il y a des dossiers en matière pénale, par exemple, quand les clients ne sont pas détenus, les personnes ne sont pas détenues, elle n'a plus le temps de les traiter, les dossiers pour les libres. On est vraiment face à des gens qui, j'ai le senti, et je crois que les syndicats de magistrats commencent à se mobiliser, une souffrance au travail qui est immense.
Étienne Blanc, est-ce que ce sont 2 postes budgétaires distincts, le matériel et les effectifs humains? On entend à Bourg-en-Bresse, on a un tout nouveau palais de justice, mais pour l'instant, il reste encore des vacances de postes et qu'il va falloir régler.
Dans le budget de la justice, cette fonction judiciaire et cette fonction pénitentiaire, et dans la fonction judiciaire, à pas de manière très claire, le nombre de magistrats du siège, le nombre de magistrats du parquet, les greffiers, tous les personnels qui font fonctionner la machine judiciaire. La deuxième chose que je voudrais dire en tant que rapporteur, ex-rapporteur, pardon, du budget de la justice, c'est que il y a quelque chose qui est horripilant quand on interroge le garde des Sceaux à la commission des finances ou à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y a un écart gigantesque entre les annonces et les résultats. Et moi, j'avais essayé d'expliquer ça au garde des Sceaux, à Mme Taubira. Je disais, mais vous annoncez la création de 1100 ou 1200 postes de magistrats, mais vous n'avez pas en face l'inscription budgétaire qui permette de créer ces postes-là.
C'est-à-dire, là, après les attentats du 13 novembre, François Hollande a promis de créer 2500 postes dans la justice, dans le cadre judiciaire. Donc, ce serait quoi? Encore un effet d'annonce?
Bien sûr. Quand vous regardez le budget 2016, vous apercevez qu'à la fin 2016, il manquera encore 1100 postes de magistrats parce que vous n'avez pas les crédits, sauf à ce que l'on vote dans un collectif budgétaire des crédits supplémentaires, ce qui se fait rarement sur le fonctionnement. Non, le problème, il est là. C'est que la justice en France, c'est un budget de 8 milliards. Pour bien fonctionner, il y a 2 pistes qui sont à travailler. La première, c'est une piste de simplification des procédures. On impose à nos fonctionnaires des procédures d'une complexité et d'une lourdeur terrible. Et deuxièmement, des moyens. Moyens informatiques, moyens humains, moyens matériels.
Thomas Fourré, sur la question des créations de postes, il faut 2 ans et demi pour un magistrat pour se former et sortir de l'école de la magistrature. Mais est-ce que vous en avez vu arriver beaucoup depuis que vous exercez des tout jeunes magistrats?
Ah oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une pénurie, c'est ce qu'avait expliqué un garde des Sceaux à l'époque, il y a 2-3 ans, je crois que c'était Madame Taubira qui expliquait qu'elle avait du mal même à trouver de vocations.
Candidat.
Oui, je rejoins ce que dit Monsieur Blanc, c'est des gens qui aiment ce métier, qui aiment le droit, qui aiment le service public, qui ont envie de travailler leur dossier, c'est certain. Il y a bien sûr quelques tirs au flanc, comme partout, comme dans toute profession, mais j'imagine, oui, je les vois, j'en discute avec eux et je me dis que j'ai bien fait finalement de choisir avocat.
Vous n'aimeriez pour rien au monde être magistrat aujourd'hui?
J'y avais pensé, pour tout dire. C'était même ma volonté première de passer le concours de l'École nationale de la magistrature. Mais on ne leur donne pas les moyens de travailler. C'est évident qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler. Surtout avec le niveau d'études et l'importance de leur fonction, la responsabilité qui est la leur, qui est immense, immense.
Étienne Blanc.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de magistrats en France qu'il y en avait en 2012. En 2016, il y a moins de magistrats qu'en 2012. Les départs en retraite, et les magistrats qui sont affectés à d'autres tâches que la justice judiciaire à proprement parler, il y a un écart de 40 postes. Voilà, la réalité, elle est là. Et c'est pour ça que les magistrats sont insatisfaits.
On parle toujours des magistrats, de la déprime des magistrats. Il y a aussi toutes les professions satellites qui gravitent autour des tribunaux. « François Danet, nous sommes dans l'ambiance feutrée de votre cabinet de psychiatrie, ici à Lyon, tout près du palais de justice de Lyon. Vous êtes installé ici en libéral, mais vous intervenez aussi souvent en tant qu'expert, expert en psychiatrie pour les tribunaux, et notamment à Bourg-en-Bresse. À quelle occasion vous sollicite-t-on ? Comment ça se passe en fait ?
Alors, on reçoit un courrier d'un magistrat qui peut nous solliciter dans diverses circonstances. Tout d'abord, ça peut être un juge d'instruction pour rencontrer un auteur présumé ou une victime. Ça peut être également un juge aux affaires familiales pour l'aider à décider des modalités de résidence d'un enfant, par exemple. Et dans ce cas-là, on peut rencontrer l'un ou l'autre parent ou l'intégralité de la famille, dont les enfants. Ce peut être également un juge des enfants dans le cadre d'un enfant en danger, qu'il soit délinquant ou victime, par exemple, de maltraitance de la part de ses parents. Ça peut être également un juge des tutelles qui nous sollicite pour protéger un majeur, par exemple un jeune handicapé ou une personne âgée en maison de retraite pour laquelle il faut gérer les biens. Et puis ça peut être également des policiers dans le cadre d'enquêtes qui nous demandent de rencontrer des victimes ou des auteurs.
Quelle part ça représente pour vous dans votre travail ?
Je dirais que, me concernant, ça représente à peu près 30% de mon activité. Pour rester psychiatre et psychothérapeute, qui est mon activité principale, j'ai également une activité d'enseignement, et j'estime que finalement ces trois activités se nourrissent l'une l'autre.
Est-ce que vous disposez avec vos patients, quand ils sont justiciables, du même temps que vous avez avec vos patients en cabinet ?
Alors, en cabinet, on rencontre les gens très souvent, bien évidemment, pour des suivis qui peuvent être même pluri-hebdomadaires dans certaines circonstances. Et bien évidemment, la rencontre expertale est le plus souvent une rencontre unique. Et éventuellement, on consulte des pièces, mais ça s'arrête là. Auparavant, et c'est de moins en moins le cas et c'est regrettable, on pouvait être nommé à 2-3 experts pour une même situation. Aujourd'hui, on est amené à rencontrer un justiciable à 2 ou 3 professionnels, uniquement dans des situations délicates. Mais à part ces cas sensibles, on est la plupart du temps seul expert à apprécier l'état clinique de différents protagonistes pour des sujets qui sont parfois difficiles.
Est-ce que ceci est aussi dû à un manque de moyens ?
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que au vu de l'enveloppe de paiement des expertises, bien évidemment que on s'en tient à une rencontre qu'on souhaite la plus longue possible, mais il va de soi que si on avait plus de temps, on pourrait travailler à plusieurs psychiatres sur chaque cas, et dans ce cas-là ce serait beaucoup plus riche en termes également de propositions thérapeutiques.
Cette enveloppe de paiement dont vous parlez, elle a diminué au cours du temps. Vous, depuis combien de temps vous êtes inscrit sur les listes des experts psychiatres ?
Moi, j'ai été longtemps expert non inscrit. Je fais des expertises depuis à peu près 1998. Je dirais que c'est plutôt que les expertises n'ont pas été augmentées. Et de surcroît, les retards de paiement sont très importants, puisqu'ils vont, je dirais, les retards de paiement vont entre 8 et 24 mois à peu près, pour le paiement des expertises, en effet.
Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, quand il a pris ses fonctions, il a tout de suite dit combien la dette qu'il avait, que la justice française a auprès des experts, s'élève à des millions d'euros. La dette de la justice envers vous, François Danet, elle s'élève à combien à peu près aujourd'hui ?
Je dirais qu'elle s'élève à 2/3 d'une année d'expertise à peu près, c'est-à-dire que j'ai dans, je dirais, le buffet qui est à ma droite, une pile considérable de toutes les expertises impayées. Et maintenant le paiement des expertises va être informatisé, mais avant on était appelé à relancer les tribunaux pour d'ailleurs savoir si telle ou telle expertise avait été payée. Et donc en effet c'est très long.
Donc vous n'avez pas encore songé à vous rayer des listes, mais beaucoup de vos confrères l'ont fait. Vous avez des collègues autour de vous qui ont fait ce choix d'arrêter de collaborer avec la justice à cause des retards de paiement ?
Oui, en effet, ce d'autant que depuis quelque temps a été mis en place une plateforme de paiement informatique sur lesquelles on doit saisir tous nos mémoires de frais. Et en effet, paradoxalement, depuis que cette plateforme a été mise en place, les retards de paiement ont plutôt eu tendance à s'aggraver de façon considérable. Et ce d'autant que ça demande beaucoup de temps de saisir un mémoire. Et dans ce contexte-là, un certain nombre d'experts, en effet, se sont rayés des listes pour ne pas avoir à subir cette énième tracasserie administrative, en plus du retard de paiement.
Et ça, c'est inquiétant pour la suite de la collaboration entre la justice et la psychiatrie.
Oui, c'est inquiétant, ce d'autant que la tentation du ministère de la Justice pourrait être de n'avoir que des experts vraiment professionnels qui ne fassent que ça. La dérive, finalement, serait qu'il n'y ait que des experts à temps plein et moins d'experts occasionnels, et c'est quelque chose qui n'est ni souhaité par les professionnels, ni souhaité par les magistrats. Il est important que expert ne soit pas une profession.
Il est important que expert ne soit pas une profession car l'exercice clinique nourrit l'expertise. 170 millions d'euros, c'est le montant de la dette de la justice française envers tous ces experts, alors qu'ils soient psychiatres mais aussi interprètes, les laboratoires d'analyse d'ADN et autres. Vous en avez vu beaucoup, vous Thomas Fouret, se faire rayer des listes des experts avec qui vous avez pu travailler?
Je l'ai vu plus particulièrement pour la question des interprètes, ouais, qui se discutent. Alors eux qui sont aussi un rouage essentiel de la machine judiciaire. Je l'ai vu avec les interprètes, oui. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils voulaient engager la responsabilité de l'État, saisir le tribunal administratif, parce que voilà, ils vivent à crédit. Alors là aussi, hein, c'est des gens passionnés qui aiment la justice, qui aiment faire comprendre les gens pour que les gens puissent se faire comprendre, pardon. Il faut qu'il y ait un renouvellement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'intéresser. C'est plutôt la question des nouveaux experts, c'est-à-dire que est-ce que les jeunes psychologues ou psychiatres ont envie de faire ce métier ?
Étienne Blanc, François Danet, a expliqué son rôle notamment auprès des détenus, puisque le juge d'application des peines fait appel à lui pour une remise de peine ou une libération ou autre. Comment le manque de moyens alloués aux tribunaux et aux experts se répercute au quotidien dans les prisons que vous connaissez bien, de Lyon-Corbas, de Villefranche-sur-Saône, de Saint-Étienne-la-Talaudière ?
C'est un problème puisque le code de procédure pénale et le code pénal prévoient l'intervention obligatoire d'experts dans un certain nombre d'affaires. Évidemment, les plus emblématiques sont les affaires criminelles, puisqu'on ne peut pas juger un criminel devant une cour d'assises sans avoir au préalable eu recours à des expertises. Donc ce sont des retards dans les procédures, c'est une complexité ajoutée au dossier et c'est incontestablement une complexité ajoutée au travail des juges d'instruction. Il y a deux phénomènes qui causent cette situation. Le premier, c'est que le législateur n'a cessé d'ajouter dans notre droit positif l'obligation de recourir à des experts. Et on a multiplié le cas, notamment des expertises psychiatriques obligatoires. Et le deuxième phénomène, c'est que dans un certain nombre de tribunaux, on n'a pas bien maîtrisé ces dépenses d'expertise. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans certains cas, des dérapages. On a eu recours à beaucoup d'expertises. Et ce défaut de maîtrise a généré des difficultés puisque les crédits n'étaient pas suffisants pour y faire face.
Mais ce n'est pas nécessaire, justement, d'avoir beaucoup d'expertise pour juger.
Dans certains cas, oui.
La...
Dans d'autres cas, la chancellerie a constaté qu'il y avait eu des dérapages. On a eu beaucoup recours à des expertises téléphoniques, surveillance, etc. Ou à des ADN. Donc, il faut ajouter à ça en plus qu'il y a une époque, il n'y avait pas de marché public global. Donc, c'était des marchés qui étaient des marchés séquencés. Donc, il y a eu des coûts et des dérives de coûts. En revanche, régulièrement, dans le vote du budget, nous disions attention, vous avez sous-évalué l'inscription pour faire face aux expertises. Souvent, le garde des Sceaux répond qu'il y aura un collectif budgétaire et qu'on rajoutera ce qu'il faut en fin d'année. En fait, on se court après, quoi. On arrive en fin d'année, on paye l'expertise d'année précédente, mais on en engage toujours. Et donc, c'est un véritable souci. Non, le problème, il est simple, hein, c'est que les inscriptions budgétaires ne sont pas suffisantes pour faire face à la charge expertale en France.
Tout ça fait prendre du retard sur tous les dossiers. Et, François Danet commençait à évoquer cette question du délai, des délais à respecter. Thomas Fouret, la loi en est pleine de procédures et de délais à respecter. Est-ce que vous en voyez beaucoup des affaires classées juste parce qu'elles n'ont pas été traitées à temps? ou des détenus qui sortent de prison sans avoir vu le juge d'application des peines parce que les délais n'ont pas été respectés.
Ah, oui, oui, évidemment, il y a une question de délai. Hein, des exemples simples, j'en ai. Vous avez par exemple en droit des mineurs, par exemple ce qu'on appelle l'assistance éducative, c'est-à-dire le placement des enfants. La mesure est prononcée normalement pour une durée de 6 mois, au terme de laquelle le juge doit se prononcer. Parce qu'il n'y a pas assez de juges, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, par exemple, au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge ne peut pas revoir les personnes dans les délais 6 mois, donc il prend une audience, il fait une audience sans les parties et il prolonge la mesure, alors que c'est prévu par la loi qu'on doit reconvoquer les parents et l'enfant, etc., pour voir si la mesure est obligatoire. Et donc on reprolonge finalement une pratique illégale qui existe. Juge aux affaires familiales, par exemple, sur Lyon, c'est 8 mois pour être convoqué. Vous déposez une demande et vous avez la première audience à 8 mois. Pendant 8 mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez les personnes, les conjoints, les peut-être futurs ex-conjoints, qui doivent vivre ensemble et donc rien n'est fixé. Les questions financières ne sont pas réglées entre les époux, qui sont bien obligés parfois de cohabiter ensemble. On imagine les dommages pour les enfants aussi. Donc voilà, concrètement, oui, ces retards, ils existent. Après, en matière pénal, je pense particulièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure, à ce juge d'instruction débordé qui est tenu par des délais pour des personnes détenues, des délais assez stricts, et donc qui, obligé de tenir ces délais, ne traite plus des dossiers pour des personnes qui sont mises en examen et qui sont libres, et en particulier pour les victimes. J'ai un dossier auquel je pense, où mon client s'est retrouvé à une vingtaine d'années, s'est retrouvé tétraplégique, accident du travail. Le responsable de l'entreprise, l'accident a lieu il y a 2 ans, n'a toujours pas été convoqué par le juge. Et lui attend pour savoir quelle sera sa prise en charge par exemple, l'assurance maladie.
Étienne Blanc, tous les moyens de la justice aujourd'hui, le peu qu'elle a, vont au pénal au détriment des autres tribunaux, des tribunaux des affaires familiales, des affaires de sécurité sociale?
Alors non. L'essentiel du budget, des augmentations de budget, c'est sur la justice pénitentiaire, sur le volet pénitentiaire du budget de la justice. Lui, il augmente de 1% en 2016, alors que la justice judiciaire, pénale et civile, n'augmente que de 0,7%. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que quand on annonce un budget, et il faut bien distinguer ce à quoi sont affectées les augmentations budgétaires. Et aujourd'hui, c'est essentiellement au volet pénitentiaire. Et ce que disent les magistrats du siège comme du parquet, c'est que cette situation ne pourra pas durer longtemps.
Agnès Courche et Moustapha Mounsif, vous nous avez donné rendez-vous dans ce tout nouveau local CGT, la permanence syndicale CGT des chancelleries et des services judiciaires. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste votre métier, qui est un métier de l'ombre, comme on dit, un métier qu'on connaît moins et qui est celui de greffier.
Oui, alors la première fonction du greffier est d'être garant de la procédure. Et donc d'assister les magistrats dans tous les actes de la procédure. Le fondement du métier est d'assister aux audiences et aussi accueillir le justiciable et le renseigner.
Est-ce qu'aujourd'hui, Agnès Courche, vous avez les moyens d'assurer une mission jusqu'au bout, du début à la fin, dans des délais raisonnables?
Alors, disons qu'au niveau du civil, en matière de délai, c'est un peu différent puisque les délais, c'est un peu fixé par les échanges de conclusions des avocats. Au niveau de l'audiencement, c'est vrai qu'on est plutôt un service qui est à jour. Faut le dire aussi quand ça arrive. Après, j'ai fait aussi du tribunal pour enfants et de l'assistance éducative, où les greffiers n'assistent plus aux audiences d'assistance éducative. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'assister le magistrat à l'audience et de faire toutes les tâches administratives qu'il y a à faire. Bon, alors on travaille la porte ouverte s'il y a besoin, mais c'est vrai qu'à certaines audiences, le greffier ne va plus à certaines audiences, donc d'assistance éducative, ça a pu se faire aussi en chambre civile où on allait à l'appel des causes et on remontait travailler au greffe et on n'assistait pas à l'audience.
Parce que ça pourrait poser quoi comme problème concrètement?
Bah, disons que la décision n'est pas valable. Puis c'est quelque part, c'est un faux aussi. Donc, c'est vrai que quand on nous propose ça comme solution, on est un peu pris entre l'envie et le besoin. Et on a le devoir aussi de faire notre travail correctement, de faire avancer les dossiers, que les jugements sortent. Parce qu'il y a pas, donc, il y a ça. Il y a le justiciable qui attend des décisions, qui attend des réponses. Et aussi le cœur du métier, qui est quand même, on est garant de la procédure, on doit aller à l'audience. Notre présence est indispensable, donc c'est aussi de respecter notre travail, quoi.
Vous, Moustapha Mounsif, qui travaillez à l'exécution des peines, c'est encore une autre problématique?
Alors, je pense que malheureusement, je ne peux pas dire que nos dossiers sont à jour. Donc pour la personne condamnée, il est parfois difficile parce que en matière pénale, on parle d'individualisation de la peine, on parle de réinsertion. Or, lorsque vous attendez 6 mois, 7 mois après la condamnation pour interpeller quelqu'un, pour lui dire maintenant vous allez en détention, vous allez effectuer telle ou telle mesure, alors que cette personne probablement a déjà commencé son parcours de réinsertion, a déjà trouvé un travail, etc., a des projets d'ordre familial, etc., c'est difficile finalement avec ce retard, et la peine ne remplit pas. Sa finalité est faire en sorte que cette personne soit réinsérée dans la société.
Vous, greffier, qui êtes les premiers contacts avec les justiciables, est-ce que vous avez les moyens de les accueillir, de les renseigner au mieux?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de le faire correctement, parce que c'est vrai que quand on est débordé de travail, sous pression... Parfois, il faut l'avouer, on peut des fois manquer de patience pour expliquer le fonctionnement de la justice, qui est des fois complexe, hein, c'est clair. Donc c'est vrai qu'on essaye de le faire au mieux, mais moi j'ai eu des fois le sentiment de ne pas avoir rempli cette tâche correctement, soit parce que j'ai abrégé les explications, soit parce que oui, j'ai pas eu la patience suffisante pour vraiment le faire correctement, alors que quand même c'est notre... Oui, c'est quand même aussi, ça fait partie de nos premières missions d'accueillir, d'expliquer et d'orienter.
Oui, juste pour rejoindre ma collègue, il ne faut pas oublier qu'on est un service public et c'est vrai que cette question-là est très très intéressante dans la mesure où le justiciable, c'est l'usager du service public. C'est-à-dire des personnes qui vont appeler parce que ils souhaitent que restituer leur permis de conduire, ils ne savent pas où il est, est-ce qu'il est à la préfecture, est-ce qu'il est chez nous, etc. Donc on sait qu'il n'est pas chez nous, mais est-ce qu'il suffit de leur dire que le permis de conduire n'est pas chez nous et renvoyer ce justiciable comme ça? Moi j'estime que non. Donc remonter au dossier, etc., etc., ça prend du temps. Donc voilà, ça c'est un exemple type qui fait le lien entre le manque de moyens et la qualité de service.
Est-ce que néanmoins vous avez l'impression d'être plutôt bien loti ici à Bourg-en-Bresse? Là je parle aux représentants CGT des chancelleries de l'Ain dans son ensemble, dans un département qui est quand même pas réputé pour être le plus difficile socialement, dans un tribunal de grande instance tout neuf, un palais de justice qui regroupe toutes ces juridictions et que vous avez réclamé de nombreuses années, que vous avez enfin obtenu.
Comparé à d'autres juridictions, on ne peut pas dire qu'on est la juridiction qui est la plus en souffrance en termes d'effectifs et en termes de moyens. Cependant, oui, à Bourg-en-Bresse, on manque d'effectifs, on manque de moyens. Donc c'est mesurable, hein, quelque part, service par service. Si je prends l'exemple de greffe correctionnelle, on a un retard immense en matière de jugement. C'est-à-dire qu'il y a des jugements qui datent de presque fin 2015 qui ne sont pas encore tapés. Du coup, qui dit jugement pas tapé, pas signé, pas signé, pas exécuté. Donc voilà.
Agnès Courche, le bâtiment est beau, mais les problèmes n'ont pas disparu a priori.
Ah oui, les problèmes sont toujours là et c'est pas parce qu'on a un nouveau palais qui vont disparaître, c'est pas parce qu'il y a eu des effets d'annonce du ministre de la Justice que tout va mieux, et même ce qui a été annoncé, c'est pas forcément suffisant. Nous, il manque de fonctionnaires, de magistrats. Puis parfois, on trouve des équilibres, mais les équilibres sont très précaires, en fait, parce qu'il suffit qu'il y ait des départs, soit en mutation ou en retraite. Et en très peu de temps, une situation qui est saine, où on est à jour, en 2-3 mois, ça peut totalement se déséquilibrer. Le problème, c'est que même quand on trouve un équilibre, c'est un équilibre précaire.
Étienne Blanc, on ne parle pas beaucoup des greffiers. Ce sont eux qui font un peu la cheville ouvrière, en fait.
De... Ah, c'est plus que cela, c'est la colonne vertébrale de l'institution judiciaire. Et je pense que sans eux, le système s'effondrerait. C'est la forme sanctuarisée au service de la justice. Donc, c'est une sécurité pour le justiciable. Le jugement signé du greffier, c'est ce qu'a voulu le magistrat. C'est la procédure telle qu'elle s'est réellement déroulée. Et il y a là une véritable passion. Alors, les greffiers, ils nous disent deux choses. Ils nous disent d'abord, ayez une véritable politique et stratégie de simplification. On a parfois des tâches d'une complexité un peu désuète. Donc là, il y a un énorme travail de simplification. Et ils nous disent, deuxièmement, donnez-nous des moyens humains, mais aussi des moyens matériels. Et je pense, je le redis, à ces procédures dématérialisées. Il y a un système que la justice a cherché à mettre en place, le système Cassiopée. Au début, ça a un peu, ça a été difficile. Ce sont des systèmes informatiques qui permettent vraiment de simplifier la tâche des greffiers. Et là, il faut un effort budgétaire significatif.
Mais donc vous êtes d'accord, je parle à l'homme politique, étiquette les républicains que vous êtes, qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires.
Sur la justice et le fonctionnement de la justice, c'est une évidence. Mais si vous voulez, je reviendrai à une émission et je vous expliquerai là où il y en a trop ailleurs.
Bon, l'État régalien alors n'a pas assez de fonctionnaires. Thomas Fouret, vous entendiez cette greffière dire que les équilibres sont très précaires, qu'il suffit d'un départ en mutation ou à la retraite pour que le peu d'avance que l'on a sur les dossiers s'effondre et que la machine se grippe. C'est ce que vous pouvez constater ici à Lyon.
C'est le président du TGI qui a changé récemment, mais le précédent l'avait expliqué très simplement. Hein. Il déshabille Paul pour habiller Jacques. Hein. Il a des effectifs, par exemple, à Lyon, on manquait de juges aux affaires familiales, les JAF. Donc on a pris un juge à la chambre de la construction, chambre civile sur droit de la construction, et pour en mettre un au juge aux affaires familiales pour rattraper le retard. Donc finalement, on juge plus à la construction, et j'ai un confrère du barreau de Lyon là qui a signé l'État sur pour défaillance, puisqu'en effet, on ne peut plus juger en ce moment les dossiers en droit de la construction. Les présidents de TGI, qui sont aussi des gestionnaires, sont aussi des équilibristes, et ils essayent, en fonction des contraintes, des urgences, des mobilisations aussi de certains barreaux, pour de mettre là où il peut mettre ce qu'il a.
Donc vous rejoignez aussi Étienne Blanc sur le fait que tout ça est quand même dû à une mauvaise gestion et que les présidences et les ministères se succédant, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la personne qui remet de l'ordre dans tout ça.
L'ordre, il y est. Ce qui est dommage, de mon point de vue, c'est que, on l'a dit, on est d'accord là-dessus, c'est greffier, magistrat, experts, sont tous des gens qui aiment leur métier. On n'arrive pas dans ce métier par hasard, quoi. C'est ça qui est, ça demande des études, ça demande un investissement, ça demande des sacrifices, ça demande une mobilité géographique pour certains. On n'arrive pas là par hasard. Et finalement, c'est un énorme gâchis, de mon point de vue, parce que, oui, c'est une volonté politique. Et là-dessus, on a sûrement laissé les choses filer. Il n'y a pas une réelle volonté de donner les moyens à ces gens de travailler dignement et sereinement.
Étienne Plan.
Oui, c'est un vrai souci. La justice en France devra connaître dans les années qui viennent une augmentation significative des moyens mis à sa disposition. Et il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Si vous regardez l'évolution depuis une quinzaine d'années, c'est très significatif. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est insuffisant.
Voilà, une machine, la justice, qui marche encore grâce aux bonnes volontés, fonctionnaires, magistrats, avocats, à qui la charge de travail ne fait pas peur, mais que l'absence de perspective, sans doute, éreinte. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Étienne Blanc, rapporteur spécial du budget de la justice pour 2016, aujourd'hui vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous, Thomas Fouret. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisy au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à l'équipe de Radio France ici à Lyon pour son accueil. À la technique, c'était Chantal Nouvelot. La semaine prochaine, nous serons sur la route des contrastes à Monaco. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.